Nous allons continuer la série d'études sur la première épître de Jean. Aujourd'hui, en abordant le chapitre 4 et uniquement les six premiers versets, parce qu'ils forment une unité thématique. Donc, je vais lire le texte dans une traduction un peu remaniée, donc comme à l'habitude, à partir de l'araméen. Et puis, on va prier ensemble avant de partager quelques pensées sur ce texte. Et vous allez voir qu'il y a des choses assez relevantes par rapport à l'intervention d'Abdel. Un Jean, chapitre 4, 1 à 6. Bien-aimés que j'aime ardemment, n'ajoutez pas foi ou ne vous confiez pas en tout esprit, mais discernez, distinguez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que plusieurs prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus le Messie est venu dans la chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu dans la chair n'est pas de Dieu, mais c'est celui du Messie de mensonge, ou le faux Messie, dont vous avez entendu qu'il vient, et maintenant il est déjà dans le monde. Or vous, vous êtes enfants de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Or nous, nous sommes de Dieu, et celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par ceci que nous percevons l'esprit de vérité, et je vous le rappelle le sens ici du mot vérité, l'esprit qui affermit nos cœurs en Jésus. Donc on distingue cet esprit-là de l'esprit de l'erreur, c'est-à-dire l'esprit qui séduit pour entraîner dans l'erreur. Seigneur Jésus, tu es la parole de Dieu. Et tu nous fais comprendre que t'aimer, c'est garder ta parole. Et c'est en t'aimant et gardant ta parole que ton esprit éclaire cette parole et que cette parole nous révèle toujours un peu plus de toi, en sorte qu'il y a une boucle qui se renforce avec la parole, l'esprit et toi-même, Seigneur Jésus. Toi qui es l'image visible du Père invisible, toi qui es cette part de Dieu, le Fils de Dieu qui est venu à hauteur d'homme pour nous faire comprendre qui est Dieu. Et comme tu l'as dit à Philippe, te voir, c'est voir le Père. Et nous n'avons pas d'autre représentation de Dieu à nous faire que celle que tu nous as donnée toi-même en devenant un homme. Et c'est ce dont il est question ce matin, le Seigneur qui est venu dans la chair. Donc aide-nous à saisir cette parole. Au nom de Jésus, amen. Donc je vais soulever ce matin 4-5 points. Évidemment, je ne peux pas les développer de manière exhaustive, mais je vais essayer d'en tirer l'essence. Donc tout d'abord, je vais reprendre verset par verset, tout simplement. Donc, bien-aimés que j'aime ardemment, n'ajoutez pas foi ou ne vous confiez pas en tout esprit, mais discernez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Le premier point là qui m'alerte quand je lis ça, c'est le mot « esprit ». Parce que dans bien des églises aujourd'hui, la question des esprits, comme en parle par exemple Paul dans l'Épître aux Timothée au chapitre 4, l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, il y a le mot séducteur dans le verset 6, et des doctrines de démons. par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et dans les milieux chrétiens, soit on a tendance à mettre la dimension des esprits de côté, hein, on est chrétien, donc automatiquement on n'est pas sous influence démoniaque, c'est un peu binaire, ou alors vous connaissez d'autres milieux au contraire qui se préoccupent énormément des esprits, et on les chasse et on fait tout un tas de choses. Et pourtant, quand on lit par exemple les épîtres de Paul, on voit que Paul n'est pas tellement préoccupé par les esprits, il est plutôt préoccupé par la repentance, le dépouillement du vieil homme, pour couper le lien avec le monde spirituel. Et d'autre part, le combat contre le monde spirituel se fait par la proclamation de la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit, à l'instar de Jésus dans le désert. Mais là, les esprits, on les voit de manière indirecte. On les voit par les faux enseignements, les doctrines, ces choses-là, des idées bizarres qui circulent parfois dans les milieux chrétiens, et on se demande d'où ça vient. Alors, ça peut venir de notre propre chair, qui n'est pas régénérée dans tel ou tel domaine, notre cœur, ou alors ça vient tout simplement de faux esprits. Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger cette dimension-là, mais garder également en tête que la seule arme que nous ayons, c'est la parole de Dieu. La proclamation de la vérité chasse les ténèbres. Or, s'il y a une chose qui manque beaucoup dans les églises aujourd'hui, c'est le discernement. Je vous rappelle que dans le message de Jésus à l'église de Laodicée, il recommande à l'église de Laodicée trois choses. Est-ce que vous vous rappelez quelles sont les trois choses que Jésus recommande à l'église de Laodicée? C'est à la fin du chapitre 3 de l'Apocalypse. Sinon, je vous l'ai dit, hein. L'or, le vêtement blanc et le collyre. Donc l'or, c'est de l'or éprouvé par le feu, qui est l'image d'une foi éprouvée par les épreuves. Une foi donc dans le Seigneur, parce qu'elle a enduré et vaincu les épreuves. Et non pas une foi proclamative, non, c'est une foi qui est éprouvée par l'expérience. Le vêtement blanc, c'est évidemment l'image de la justice. Avec le blanc, le lin blanc, qui est l'image des œuvres. Et le collyre, c'est le discernement spirituel. Donc vous voyez que pour l'Église d'aujourd'hui, les trois choses sur lesquelles Jésus se focalise, c'est une foi vivante, éprouvée, c'est la véritable justification par la foi, et non pas la doctrine qu'on en a fait, je vais y revenir après. Et surtout le discernement. Comment peut-on combattre et maintenir la vérité de la parole de Dieu dans l'Église si on n'a pas le discernement? Et je vous rappelle que le discernement n'est pas affaire d'intelligence. Le discernement n'est pas « je prends des heures à analyser un texte, à décortiquer ». Non, le discernement, il est intuitif s'il y a une vision. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et le Seigneur ne nous demande pas plus que ça. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport à tout ce que l'on connaît du Seigneur, de la parole. On n'est pas forcément capable de mettre le doigt dessus, mais ça cloche, ça colle pas. Voilà. Et là, ce qu'on est en train de discerner, c'est l'esprit derrière un texte. Et on en a vraiment eu un exemple hier soir et ce matin. C'est l'esprit qu'il y a derrière un texte, on le discerne. Après, pour ceux qui le peuvent et le veulent, on peut aller décortiquer point par point, etc. Mais ce que nous sommes tous appelés à faire, c'est à discerner, à sentir que là, il y a quelque chose qui ne fleure pas bon. Donc voilà, quand on parle de discernement, ne pensez pas qu'il faut avoir fait 10 années de théologie pour discerner. Non. Pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui est la lumière. Sa vie est notre lumière. Donc ça, en fait, c'est la communion avec Jésus qui nous donne la lumière et la vision sans forcément avoir tous les mots qu'il faut pour le comprendre. C'est de l'ordre de l'intuition, c'est de la perception. Donc ne soyons pas complexés si on n'a pas de diplôme. Ce n'est pas du tout de requis pour le discernement. C'est un ordre de vision. Tout le monde ici voit, je pense, avec ou sans lunettes. Voilà, c'est le fait de voir. plusieurs prophètes de mensonges, des faux prophètes, sont sortis dans le monde. Et reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui confesse que Jésus le Messie est venu dans la chair. Le prophète de mensonge ou le faux prophète, c'est quelqu'un qui va exposer une fausse interprétation de la parole. Et en général, cette fausse interprétation de la parole, elle est basée sur une lecture littérale de l'Écriture pour laquelle la raison seule suffit, et non pas une lecture inspirée de l'Écriture pour laquelle nous avons absolument besoin de l'Esprit de Dieu. Donc la lecture littérale de l'Écriture fait appel à l'homme naturel, au raisonnement naturel. C'est ce dont il sera question au verset 5 et 6, de ceux qui parlent comme le monde, qui incluent dans l'Église les idées du monde et font un gros mélange. Ça, c'est l'homme naturel. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2 que l'homme naturel ne peut même pas concevoir les choses de Dieu. Ça lui est complètement étranger. Ça, ce sont les faux prophètes qui exposent la parole, mais à la seule lumière de leur intelligence, de leur raison naturelle, et font entrer dans l'Église les choses du monde. Pire, un faux prophète parlera parce qu'il est inspiré, comme on l'a vu avec la première épître aux Timothée, chapitre 4, par des esprits séducteurs et des démons. Ça peut aller jusque-là. Et quel est le cœur du cœur du cœur de la fausse prophétie? Elle va attaquer qui? Je l'ai entendu.
Les enfants de Dieu. Jésus.
C'est Jésus. C'est Jésus qui est attaqué toujours dans la fausse prophétie. Ce n'est pas le concept de Dieu. Il y a tellement de religions qui parlent de Dieu. Tout le monde parle de Dieu. C'est spécifiquement la personne de Jésus qui est attaquée. Et c'est pour ça que dans le verset 2, Jean fait le lien entre le faux prophète et la question de Jésus venu dans la chair. Donc la question évidemment est de savoir que veut dire le fait que Jésus est venu dans la chair. Parce qu'après tout, tout chrétien qui se respecte croit que Jésus est venu dans la chair, c'est-à-dire qu'il s'est incarné. L'islam croit que Jésus est venu dans la chair, que c'était un prophète dans la lignée des prophètes. Donc vous voyez que Jésus venu en chair, ce n'est pas simplement la question de l'incarnation. Même des historiens athées vont vous dire qu'il y a une personne qui s'appelait Jésus qui a vécu il y a 2000 ans. Ils ne vont pas forcément dire que c'est Dieu venu en chair, mais... Donc vous voyez, ce n'est pas simplement l'incarnation. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Jésus venu en chair?
Il a pris la condition humaine.
Voilà, mais ça c'est l'incarnation. Donc on va le creuser un point plus rien. En fait, le texte que je vous ai lu, de la première épître de Jean, nous donne la réponse. Bon, d'abord, Jésus venu en chair. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous Romains 8, versets 3 et 4? Cela, on va commencer à approcher la question de Jésus venu en chair. Pourquoi est-il venu en chair? Romains 8, versets 3 et 4. Si quelqu'un peut le lire avec une voix claire ou même venir ici.
Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit.
Voilà. Dans ces deux versets, il y a, je pense, le point central. Si Jésus est venu dans la chair, c'est pour que le péché y soit condamné. Donc, on ne peut pas parler de Jésus incarné, venu dans la chair, sans parler de la dénonciation du péché et la condamnation du péché dans sa chair à lui. Parce que s'il avait fallu que Dieu condamne notre péché dans notre chair, c'était tout droit à la géhenne. Et c'est pour ça qu'il est venu, pour prendre notre condamnation dans sa chair à lui. Donc le premier point, c'est celui-là. La question de la justification par le fait qu'il a porté dans sa chair la condamnation de nos péchés. Mais faut-il encore reconnaître ce qu'est le péché ? Dans combien d'églises encore, aujourd'hui, parle-t-on du péché ? Parle-t-on de la repentance ? Parle-t-on de cette nécessité de se dépouiller du vieil homme ? Rien que cette partie-là du message de l'Évangile qui est fondamentale, puisque l'Évangile, je vous le rappelle, commence par le message de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui prêchait le baptême de la repentance pour préparer la voie au Seigneur Jésus. Mais dans combien d'églises parle-t-on encore de repentance ? Donc si on ne parle plus de repentance, la venue de Jésus en chair n'a plus aucun sens. Ça, c'est le premier point. Mais ce n'est pas tout. Il y a également la fin du verset 4 de Romains 8, où il est dit « afin que nous ne marchions plus selon la chair, mais selon l'esprit ». C'est-à-dire que la conséquence de Jésus venu en chair, c'est l'apprentissage de la marche par l'esprit, si nous laissons l'esprit condamner le péché dans notre chair. Donc on ne peut pas séparer la justice de la sainteté, le pardon des péchés de la marche par l'esprit. Jésus a été fait pour nous justice et sainteté. On ne peut pas couper Jésus en deux en n'en prenant que la moitié qui nous intéresse. Donc dans certains milieux, je l'ai souvent dit ici, il y a cette quête de perfectionnisme où on cherche la sanctification et on essaye par nos propres efforts de crucifier la chair, mais on oublie complètement que Jésus est venu précisément pour que lui porte la condamnation. Donc je ne vais pas pouvoir me débarrasser de mon péché si je n'ai pas compris que c'est Jésus qui va le porter. Donc certains milieux que j'ai connus cherchent la sanctification, mais oublient complètement que tout repose sur l'œuvre de Jésus. Et inversement, donc ça c'est ce que j'appelle la sanctification sans la justification. Mais il y a d'autres milieux où on met tellement l'accent sur la justification, et Dieu est un Dieu de pardon, et il nous pardonne, et on confesse, il pardonne, etc. Mais on ne parle jamais de la marche par l'esprit, de la manifestation de la vie de l'esprit en nous. Dieu est juste là pour pardonner, mais en fait on ne change pas de vie. Vous voyez ? La justification sans la sanctification. Et dans les deux cas, on a coupé Jésus en deux. Donc la troisième voie qui nous permet de sortir de ces deux travers, ce n'est pas la justification que l'on reçoit. Ce n'est pas la sanctification que l'on reçoit. C'est Jésus que l'on reçoit qui nous justifie et qui nous sanctifie. Mais l'accent est mis sur la personne de Jésus, pas sur tel ou tel aspect de la théologie, qu'on coupe en morceaux et on récupère la partie qui nous intéresse. Voyez ? Et quand je disais que la réponse à la question « Jésus venu en chair » est dans le texte même, c'est parce que dans le verset 4, il est dit « Celui qui est en vous, celui qui vit en vous, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi », dit Galate. Et donc, le sens ultime de Jésus venu en chair, c'est Jésus vient dans ma chair. Jésus vient dans notre chair par son esprit pour y condamner le péché et manifester sa vie, la vie de l'esprit, en nous et au travers de nous. Alors évidemment, si on pense que la perfection divine est déjà en nous, discours du Nouvel Âge, New Age, nous avons l'étincelle divine en nous, ben évidemment, on ne va pas pouvoir faire venir, comme on l'a dit le dernier message, l'étoile du matin, la faire lever dans nos cœurs si on pense qu'elle y est déjà. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'obstacles ou de fausses conceptions quant au fait que Jésus soit venu en chair. Non, il vient dans ma chair pour condamner le péché et il vient pour y vivre justice et sainteté. On ne coupe pas Jésus en deux, comme le dit Calvin, que j'aime beaucoup, dans L'institution chrétienne, il dit, on reçoit Jésus en justice, en sainteté, les deux ou aucun des deux. Parce que c'est Jésus que l'on reçoit. Ce n'est pas une doctrine. Vous voyez ? Et donc, cette idée de couper les doctrines en petits morceaux, bah, c'est à se demander s'il n'y a pas une influence de faux prophétisme derrière ça. Cette idée de tout découper plutôt que de recevoir la personne de Jésus. Donc, ne séparons pas ce que Dieu a joint en Jésus. Et c'est sur lui qu'on se focalise, c'est lui que l'on recherche. Et donc, ce qui nous distingue du monde, ce n'est pas que nous soyons devenus parfaits ou infaillibles, ou même impeccables. Impeccable, impeccabilé, ça veut dire sans péché. Hein, c'est ça que ça veut dire. Peccable, c'est le peccata, c'est le péché. Donc, impeccable veut dire sans péché. Donc, ce qui nous distingue du monde, ce n'est pas que nous soyons parfaits. Nous avons des luttes, nous avons parfois des chutes. Ce n'est pas ça qui nous distingue du monde. Ce qui nous distingue du monde, c'est que nous manifestions la vie de Jésus en nous. C'est ça qui nous distingue du monde. C'est la vie par rapport à la mort. Et donc, ce qui doit nous préoccuper dans nos marches chrétiennes, c'est certes le dépouillement, la prière, la confession, la repentance. Ça fait vraiment partie intégrante de la prière quotidienne du chrétien. Mais c'est surtout la quête de Jésus et de sa vie en nous et de l'expérience de la communion avec lui. C'est ça qui va être le moteur de notre marche. Parce que si on n'a pas ce moteur-là, on va constamment se lamenter sur notre propre sort et sur notre nature pécheresse. Donc le moteur, c'est la quête de Jésus et c'est cette marche par l'Esprit, cette expérience de la vie de l'Esprit en nous. Donc Jésus venu en chair veut dire Jésus vient dans ma chair pour y vivre et s'y manifester. Il s'y manifeste en montrant sa gloire, il s'y manifeste par les dons spirituels, il se manifeste de toutes sortes de manières, mais c'est sa vie qui se manifeste. Tout esprit, verset 3, qui ne confesse pas que Jésus est venu dans la chair, n'est pas de Dieu. Donc là, c'est radical. Donc pas simplement l'incarnation dont j'ai parlé, mais véritablement que Jésus vient vivre en nous en y condamnant le péché et en manifestant sa vie de l'esprit. Donc tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu dans la chair n'est pas de Dieu, mais c'est celui du Messie menteur, ou le Messie de mensonge. Donc en araméen on dit le Messie de mensonge plutôt que l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on sait qu'il va y avoir un Antéchrist final, j'y reviens juste après. Mais un Messie de mensonge, là ça nous concerne. Vous vous rappelez non pas le dernier message sur la nativité, mais le message d'avant, où je lui disais que les faux messies, il ne faut pas oublier que le mot chrétien veut dire « oint ». Et le mot messie veut dire « oint ». Donc le faux messie, c'est un faux chrétien. Vous voyez ? Donc là, ça nous concerne directement cette fois. Hein. Voilà, parce que sinon on dit antéchrist, voilà, c'est loin, c'est quelqu'un d'autre. Un faux messie, c'est nous. Vous voyez ? Il faut qu'on fasse attention. Ça peut être nous. C'est celui du Messie de mensonge dont vous avez entendu qu'il vient et maintenant il est déjà dans le monde. Et on avait déjà vu auparavant dans 1 Jean 2 au verset 18 et 19. Est-ce que quelqu'un veut bien lire 1 Jean 2 verset 18 et 19 ? Puisqu'on a vu que la première épître de Jean, elle est construite avec des échos. On avait parlé des faux messies, on parle maintenant des faux prophètes. Donc 1 Jean 2, versets 18 et 19.
Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres.
Ils sont sortis du milieu de nous. Les antéchrists ou l'antéchrist final ne sort pas des milieux païens. Il a l'apparence chrétienne. il sort des milieux chrétiens. Et comme je l'ai dit toujours, on en a reparlé encore hier soir avec Abdel et Jean-Louis. Oui, bah oui, on en a parlé hier soir, c'était chez toi. On a dit, c'est l'Église qui est le champ de bataille. On imagine que le champ de bataille, il est dans le monde. Alors que le champ de bataille, il est dans l'Église. Le diable cherche à infiltrer l'Église. Le diable cherche à corrompre l'Église, à séduire les chrétiens dans l'Église, pour les entraîner via des faux prophètes vers des fausses doctrines, des faux enseignements. C'est l'Église qui est le terrain de bataille. Ne nous trompons pas là-dessus. Quand Jésus écrit les sept lettres aux sept églises de l'Apocalypse, il ne s'adresse pas au monde, il s'adresse aux églises. Et il dit, voilà, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, mais pour cinq des sept églises, il y en a deux qui sont irréprochables, mais cinq des sept, il va dire, mais voilà ce que j'ai contre toi. Ça, 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 repens-toi, sinon, et il termine en disant, à celui qui vaincra, je donnerai ceci ou cela. Mais vous voyez que le message est adressé aux églises. Jésus ne parle pas au monde. On a parlé pas mal d'œcuménisme hier et ce matin. Relisons Jean 17. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Vous voyez ? Donc c'est le premier point. Le champ de bataille, c'est l'Église, ne l'oublions pas. Et l'objet de cette bataille, ça rejoint l'introduction de Tobie, c'est qui est Jésus ? C'est ça le cœur du cœur de la bataille. Qui est Jésus dans l'Écriture ? Qui est Jésus pour nous ? C'est ça le cœur de la bataille. Le diable va essayer de corrompre ça. Je cite toujours et souvent ce verset de 2 Corinthiens 11. « Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure, mais de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de Jésus. » Donc le diable n'a qu'une seule œuvre, c'est essayer de nous détourner de la simplicité de la personne de Jésus. Donc on retient cela, le champ de bataille, c'est l'Église, et l'objet, le cœur, l'enjeu de la bataille, c'est qui est Jésus pour nous. Alors certes, comme il est dit, l'Antéchrist, il y en aura un final qui vient. Donc ça, on le relit dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. L'impie est fils de perdition que Jésus détruira lui-même par le souffle de sa bouche. Donc je vous rappelle que, par exemple, dans la lecture réformée, la lignée Antéchrist, c'est la lignée papale, et que l'Antéchrist final sera le dernier pape. Donc ça, c'est la lecture réformée, c'est pour vous donner un exemple. Donc là, avec qui fait-on alliance au niveau de l'œcuménisme, ça pose des problèmes. Et ce qui est important, et c'est à cela qu'on va le reconnaître, il ne confessera pas Jésus venu en chair. Donc on voit déjà la dérive de la hiérarchie catholique ces dernières décennies. On voit le pape actuel qui est vraiment très libéral. Attendons de voir ce que sera le prochain. Mais le point important, il ne confessera pas Jésus venu en chair. Oh, il va confesser l'incarnation, mais il ne va pas confesser Jésus vivant en nous. D'ailleurs, petit point de polémique, mais ça c'est une pensée qui m'est venue ce matin. Dans le catholicisme, en fait, on ne confesse pas Jésus venu en chair au sens où je l'ai dit. On confesse Jésus venu dans l'hostie, mais pas en nous. Et c'est en mangeant l'hostie que Jésus est censé vivre en nous. Mais il ne confesse pas Jésus venant en nous, il confesse Jésus venant dans l'hostie. Et enfin, on termine avec le verset 4. Vous, vous êtes fils et filles ou enfants de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous. Ben oui, on a parlé juste avant de Jésus venu dans notre chair. Ben voilà, là on a l'exemple. Jésus est venu en vous. Il est venu en nous, et c'est par là qu'on vainc, on a vaincu ces esprits de faux prophètes. Parce que Jésus vit en nous, c'est la marque de la victoire sur ce faux prophétisme qui voulait empêcher la venue de Jésus en nous, la vie de Jésus en nous, par la justice, la justification, la confession des péchés, la repentance, et Romains 8, versets 3 et 4, la marche par l'Esprit. Et ça, ce vous les avez vaincus, ça doit vous rappeler un verset qu'on a déjà lu dans la première épître de Jean, dans un des messages précédents, c'est dans 1 Jean 2, verset 14, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. » On ne peut pas engager le combat contre les esprits séducteurs et le malin si on ne garde pas la parole, si la parole ne demeure pas en nous. Parce que si la parole de Dieu ne demeure pas en nous et fait l'objet de notre méditation quotidienne, comment voudrions-nous que Jésus demeure en nous ? Vous voyez, la parole fait son œuvre en nous pour que Jésus puisse vivre en nous. Celui qui a ma parole et qui la garde, c'est celui qui m'aime. Jean 14. Je suis à peu près dans les temps. Donc le dernier verset, c'est les versets 5 et 6. Et là, ça résume un peu tout ce que l'on a dit. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Et là, j'ai envie immédiatement de rajouter, certes, le monde les écoute, ces chrétiens qui parlent comme le monde, mais au fond, le monde les méprise. Précisément parce qu'ils se sont agenouillés devant le monde et ont intégré les affaires, les idées et les concepts du monde pour pouvoir plaire au monde. Donc en fait, le monde les méprise. Or nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par ceci que nous percevons l'esprit de vérité qui a fermé le cœur en Jésus et l'esprit de l'erreur, l'esprit de séduction. Alors là, il y a un verset qui est très dangereux. Parce que c'est grosso modo « nous versus eux ». Or, toutes les sectes sont basées sur « nous versus eux ». Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Comme ça, c'est binaire, c'est simple, c'est radical. Vous voyez ? Donc, c'est qu'il manque un ingrédient dans ce que je viens de lire. Et l'ingrédient, évidemment, c'est le monde. Eux, les religieux, par rapport au monde dont ils ingèrent les discours, et nous qui marchons avec le Seigneur. Donc là, en fait, il y a trois acteurs dans ces versets. Il y a le monde, il y a les chrétiens qui parlent comme le monde, et il y a nous, sommes de Dieu, ceux qui gardent la parole de Dieu et qui discernent les chrétiens qui parlent comme le monde, et évidemment le monde lui-même. Et c'est parce qu'on le discerne qu'on voit bien, mais non, ton discours, c'est pas la parole de Dieu, c'est le discours du monde. Et donc à nouveau, on en a eu un bel exemple, malheureusement, de ces idées du monde moderniste et tout ce que l'on veut, qui entre dans le discours chrétien pour être bien vu du monde. Ça vous rappelle ce que Jésus disait, ils tirent leur gloire les uns des autres et ne cherchent pas la gloire qui vient de Dieu seul. Au nom de la tolérance, on finit par embrasser le monde et faire entrer le monde dans l'Église. C'est ça le propre de l'esprit antéchrist. Il fait entrer le monde dans l'Église et il évacue la personne de Jésus. Ah non, mais il ne faut pas mettre Jésus au centre parce que ça va diviser. Ah, mais il ne faut surtout pas mettre la parole en avant parce qu'il y a tellement d'interprétations, ça va faire que la division. Donc on met la parole de côté, on met Jésus de côté et on fait entrer les idées du monde pour créer une fausse concorde entre les chrétiens. Voilà, ils parlent selon le monde et le monde les écoute, le monde les méprise. Et si nous, nous parlons au nom de Jésus par la parole de Dieu, le monde ne va pas nous mépriser, il va nous haïr. C'est ce que Jésus a annoncé plusieurs fois. Ce n'est pas le mépris auquel on doit s'attendre, c'est à la haine. J'allais presque dire quand on est méprisé, c'est mauvais signe. Quand on est haï, là on rejoint les propos de Jésus. Voilà, donc gardons-nous, vous voyez que dans tous les passages, le passage qu'on vient de lire, il y a une unité entre ces faux esprits, ces faux prophètes, ces faux messies, versus Jésus vivant en nous. C'est ça le contraste de ces versets que l'on vient de lire. Le monde et l'esprit du monde, portés par des faux prophètes et des faux messies, des antéchrists, d'une part, et d'autre part, notre responsabilité, Jésus vivant en nous, garder la parole de Dieu et garder le monde hors de l'Église et hors de nous. Donc sans compromis et certainement pas au nom d'une fausse tolérance. Parce que cette tolérance à l'égard du monde devient une tolérance à l'égard du péché.